Guermann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs pour le 29 janvier 2025. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah, bonjour tout le monde.
Presque la fin janvier, où est passé le temps? Quelles sont les nouvelles financières qui ont retenu ton attention depuis la dernière semaine?
Semaine passablement houleuse sur les marchés boursiers, puis principalement, on a vu lundi, là, une journée très négative sur l'annonce de DeepSeek, donc un service d'intelligence artificielle chinois qui a été lancé à des coûts beaucoup moins que ChatGPT puis les autres compétiteurs américains. Ça a eu comme impact de lancer une douche d'eau extrêmement froide sur plusieurs types d'intelligence artificielle comme, entre autres, NVIDIA. NVIDIA a perdu lundi 17,6%. Donc, c'était vraiment la compagnie phare de l'intelligence artificielle depuis 2-3 ans. Pour mettre ça en ordre de grandeur, là, 17,6% de NVIDIA, ça représente 590 milliards américains de valeur boursière. C'est l'équivalent de faire disparaître 3 banques royales plus une banque TD en une journée. Donc, c'est l'ampleur là, de la capitalisation boursière qui a été perdue uniquement par cette entreprise-là. Il y en a plusieurs autres qui ont baissé beaucoup. Il y a des entreprises comme Cameco dans le nucléaire. Donc, on sait que l'intelligence artificielle va prendre beaucoup d'électricité. Donc, les titres d'énergie ont aussi subi des revers importants. Cameco, moins 14%. GE Vernova, là, qui est une entreprise américaine là, qui fait qui produit de l'électricité puis des matériels pour faire l'électricité, moins 23%. Par contre, c'est pas l'ensemble du marché qui a planté. Tu sais, je regardais, TELUS a augmenté de 3,5 cette journée-là. Donc, tu sais, la diversification fait son œuvre. TELUS, on s'entend que c'est un titre qui nous déçoit depuis 2-3 ans, là, qui est en forte baisse. Mais dans cette journée-là, où les titres d'intelligence artificielle baissent beaucoup, des titres comme TELUS ont augmenté, l'indice des obligations fédérales à long terme a augmenté. Donc, il y a plein d'autres choses qui ont performé à la hausse. Puis, tu sais, on va cogner sur la table à deux points. Là, la diversification demeure importante, même quand on sent un thème de l'intelligence artificielle qui est très, très fort. Donc, qu'est-ce que ça donne depuis une semaine, malgré tout ça? Bien, ça donne un TSX en hausse de 0,5%. Donc, on a des marchés qui ont quand même rebondi un peu hier. Et même au côté américain, S&P 500 en hausse de 0,3. Et du côté du Nasdaq, une légère baisse 0,2. Donc, tu sais, moins 4 lundi, mais ça avait quand même bien fait dans les jours, là, jeudi, vendredi dernier et hier. On a donc des marchés, là, en général, le Nasdaq en hausse de 2,4 depuis le début de l'année. 3% du côté du TSX et du S&P 500. Ça va bien. Les taux d'intérêt, aujourd'hui, on va avoir des annonces de la Réserve fédérale aux États-Unis. Donc, on s'attend à ce que, de leur côté, ils gardent les taux stables, là, qu'il n'y ait pas de changement. On sait que les politiques de Trump pourraient être vues comme inflationnistes. Donc, je pense que la Réserve fédérale veut prendre un peu son temps pour voir quel est l'impact avant de bouger. Du côté de la Banque du Canada, c'est un peu l'inverse. On s'attend fortement à une baisse d'un quart de point encore. Donc, on verra si on a raison. Et là, on rentre dans la saison des résultats. Les entreprises là, vont annoncer les résultats, les bénéfices pour le dernier trimestre de l'année passée. Ce soir, on a Microsoft et Tesla. Ça pourrait être le prochain catalyse là, pour déterminer la direction des marchés dans les 2-3 prochains mois. Donc, quelques bons résultats financiers des entreprises vont peut-être enlever le focus sur ce qui se passe dans l'intelligence artificielle puis revenir aux fondamentaux. En bout de ligne, quand on investit en bourse, on veut acheter des entreprises qui génèrent des bénéfices, qui payent des dividendes puis qui grossissent la valeur des actionnaires.
Il y a toujours une réaction initiale à des nouvelles. Puis là, après ça, ben, les esprits se calment, les gens commencent à creuser un peu. Et ouais. On revient à quelque chose.
On vend en premier puis on pose des questions après. Là. C'est un peu l'impression qu'on a eu lundi. Tout a vendu puis là, on se dit « Ah, OK, finalement, c'est pas si pire. » Ça sera
bien. Ben, merci beaucoup, Martin. Aujourd'hui, on a un balado pour vous qui a vraiment été créé en équipe. Donc, c'était l'idée de Michel, notre conseillère en gestion de patrimoine associé. Et puis, ben, de le faire avec Mathieu, qui est notre conseiller notre adjoint en gestion patrimoine et notre fils. Donc, bienvenue Mathieu.
Merci, merci.
Donc, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on veut adresser l'achat d'une première propriété et on veut répondre à certaines questions que pourrait se poser un éventuel acheteur d'une première propriété. Puis c'est drôle parce qu'en ce moment, on a la conversation régulièrement avec notre autre fils, donc le frère aîné de Mathieu. Donc, Mathieu va prendre un peu le rôle que son frère aîné fait avec nous à tous les soirs et poser certaines questions. Et en plus, Mathieu, c'est un jeune homme qui est au stade de vie où il pourrait chercher possiblement à acheter une première propriété dans les prochaines années. Donc, dis-nous, quelles sont des questions que les gens de ton entourage ou toi-même pourraient se poser par rapport à cette étape bien importante?
Oui, bien, la première question que moi, je me pose, puis je sais que beaucoup de personnes dans ma position se posent aussi, à la base, là, moi, je suis un locataire depuis quelques années. J'aime bien être un locataire. Je pense que ça m'amène une certaine liberté. Là, quand il y a un bris ou quoi que ce soit, j'ai pas à me stresser avec ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans mon entourage et, comme je dis, dans ma position, là, qui se posent, est-ce que c'est mieux être un locataire ou est-ce que on devrait acheter une propriété, c'est quoi finalement qui est le meilleur choix pour moi à mon âge?
Et ça, c'est la question que tout le monde se pose. Puis on sait qu'il y a un aspect psychologique de vouloir devenir propriétaire. Le rêve américain, là, c'est d'avoir le petit bungalow avec la clôture en picket fence, là, la petite clôture blanche. Donc, en faisant la recherche pour le balado, là, j'ai découvert sur le site de l'Autorité des marchés financiers, donc le site de l'AMF. Vous pouvez juste aller sur votre moteur de recherche favori puis faire site de Autorité des marchés financiers. Dans les outils, dans la section grand public outils, il y a effectivement un calculateur qui répond précisément à cette question-là. C'est extrêmement bien fait. Le calculateur, on va donc rentrer, combien je paye de loyer présentement? C'est quoi mon augmentation du taux de loyer prévu dans les prochaines années? Donc, on sait que le tribunal administratif du logement a dit 5,9 cette année. On peut présumer que c'est plus proche de l'inflation à long terme, autour de 2. Quel est le rendement de mes placements que je prévois faire dans les prochaines années, net des impôts, parce que ma propriété sera nette d'impôts. Donc, je veux calculer un rendement net d'impôts. Ensuite, je vais dire, c'est quoi le prix de ma maison que je vais acheter? C'est quoi la mise de fonds dont je dispose présentement, mon taux hypothécaire? Et ensuite, le calculateur va suggérer d'autres données financières, des taxes scolaires, des frais de déménagement, des coûts d'assurance, l'entretien puis le déneigement de la maison, les frais de condo si c'est applicable. Faut que je paye une taxe de bienvenue, hein, le droit de mutation, là, concrètement, les frais de déménagement.
Puis je pense que ça donne les frais de base, mais l'exercice qui est important à faire, c'est de regarder concrètement la propriété qu'on est en train d'acheter et de dire, OK, j'ai-tu besoin d'acheter des électros?
Ouais.
Je vais-tu avoir besoin d'acheter d'autres meubles? Est-ce que je vais avoir besoin d'acheter des rideaux pour couvrir mes fenêtres? Souvent, on voit une propriété qui est toute neuve, qui est toute belle, qui vient d'être bâtie ou rénovée. Mais il n'y a pas de rideaux aux fenêtres.
Il n'y a même pas de luminaires dans une nouvelle construction. Il faut acheter toutes les luminaires de la maison et il y en a beaucoup.
C'est ça. Fait que la réalité, c'est qu'on doit être très, très honnête avec ces coûts-là. Donc, je pense que le calculateur est bon, mais aussi les constats de l'individu sont aussi très
utiles. Ce que j'ai beaucoup aimé du calculateur, c'est que ça va carrément dire, j'ai simulé quelques données, là, puis ça me disait dans ce cas-ci, si on prévoit garder la propriété plus de 5 ans, acheter, ça fait du sens. Donc là, c'était basé sur les données fictives, mais je les ai faites avec d'autres chiffres. Puis là, ça disait, non, tu devrais demeurer locataire le restant de tes jours. Okay. Donc, c'est vraiment, là, je vous invite, si vous cherchez le calculateur, appelez-nous ou Google ou votre moteur de recherche favori, AMF, calculateur, acheter ou louer une propriété.
Fait que va jouer avec ça, Mathieu.
C'est ça, mais j'allais dire, donc ultimement, le choix, il repose sur la situation de la personne en particulier.
C'est pas nécessairement... Combien tu payes de loyer versus combien tu penses que tu vas payer pour ta maison, sans oublier que faut que tu répares le toit, change les fenêtres, déneige la maison. Y a toutes sortes de trucs là, qui va devoir
être... Puis ça repose aussi sur la préférence personnelle de la personne. Donc, il y a des gens qui se disent « Moi, je veux être chez moi. » puis je veux que ma maison m'appartienne. Puis c'est pas logique financièrement, c'est plus quelque chose qui leur fait du bien psychologiquement. Puis si c'est ton cas, ben achète une propriété, puis vise ça comme objectif.
Ouais, c'est bon, merci. Prochaine question que j'aurais, c'est si je décide d'acheter une propriété, est-ce que je devrais faire affaire avec un agent d'immeuble ou est-ce que je devrais essayer de le faire moi-même?
Donc, puis ça, c'est une conversation qu'on a eue beaucoup à la maison, hein, Martin. Mathieu, tu le sais. Et puis, tu sais aussi que Martin puis moi, on le fait des achats de différentes façons en utilisant un agent d'immeuble et non. Notre premier achat, on le fait vraiment en utilisant un agent d'immeuble et ça a été tellement une belle expérience. Et surtout du côté acheteur, puis quand on fait notre premier achat, moi, je recommande que c'est d'avoir un agent d'immeuble, d'avoir quelqu'un qui nous ressemble, qui comprend nos besoins. Si on veut être pris par la main, si on veut être accompagné, il y a tellement de choses, de mise en garde à avoir avant d'acheter une propriété. Il y a, nous, on peut toujours te servir comme conseiller, comme tes parents. On est des conseillers financiers, mais on ne connaît pas tous les détails sur les propriétés. Donc, moi, je te recommande la valeur du conseil d'un conseiller. D'un agent d'immeuble ou d'un courtier immobilier, ça vaut la peine. C'est un peu comme Martin puis moi en placement. Hein? Il y a des gens qui le font tout seul via Disnat, exemple, puis ça fonctionne. Mais il y a des gens qui veulent être accompagnés, qui voient une valeur à ces conseils-là. Donc, moi, on a fortement recommandé à ton frère d'utiliser quelqu'un parce qu'on ne peut pas tout savoir.
Puis c'est très émotif acheter une maison. Hein? C'est un gros montant, mais c'est un rêve là, dans quelque sorte la première fois. Donc, c'est difficile de faire abstraction de ses émotions. Puis on veut tellement acheter qu'on va tout voir rose, tout est beau, tout est parfait. L'agent d'immeuble, il va être beaucoup plus froid et indépendant, puis peut-être nous protéger contre notre excès d'enthousiasme face à une propriété.
Puis ça, c'est tellement vrai, Martin, parce que le dernier achat qu'on a fait, on a utilisé une excellente courtier immobilier, vraiment, qui nous a accompagnés. Et moi, je suis une personne très spontanée. Surtout, je peux choisir la couleur de mes ongles, ça me prend très longtemps, mais acheter une propriété, c'est 2 secondes et demie. et puis, j'ai trouvé qu'elle a contrôlé nos ardeurs et ça a été très utile.
100%.
OK. Parfait. Prochaine question. Je voulais savoir, selon vous, quel est le bon pourcentage de mise de fonds? Si je trouve une propriété, agent d'immeuble qui m'aide, après ça, c'est quoi le bon pourcentage à mettre de mise de fonds sur la propriété?
Bon, il y a... Si on veut éviter le frais d'assurance de la SCHL, il faut mettre 20 % de mise de fonds. Donc, frais d'assurance de la SCHL, là, c'est un frais supplémentaire qui va être additionné à votre solde hypothécaire pour protéger l'institution financière en cas de votre défaut de paiement si vous mettez moins de 20 % de mise de fonds. C'est en place pour protéger le système financier canadien. Donc, ça, si on met moins que 20, on n'a pas le choix. Il y a des barèmes. Si on met juste 5 %, ben, la prime est plus élevée. Puis si on met 10, ça baisse un petit peu. Je ne connais pas le tableau précisément. Donc, c'est sûr que, tu sais, si je veux acheter une maison plus modeste, puis je n'ai pas réussi à m'économiser, tu sais, 10% de mise de fonds, 20% de mise de fonds, est-ce que je devrais vraiment devenir propriétaire? Ben, il faut un peu se poser la question, là. Si pendant que j'étais locataire, j'étais pas en mesure d'épargner, ça va être bien difficile de le faire en tant que propriétaire parce qu'il y a des coûts supplémentaires, là. Ça, on l'a bien vu, puis vous allez le voir dans le calculateur. Donc, idéalement, on veut éviter la SCHL. Dans certains cas, ça peut quand même faire du sens, absolument.
Il faut dire qu'on a acheté notre première propriété en utilisant la SCHL.
Évidemment, on a acheté notre première maison. Elle coûtait presque le prix d'une belle voiture de luxe aujourd'hui. mais tu sais, à l'impossible, nul n'est tenu, ça peut faire du sens là, quand même d'utiliser la SCHL si on n'a pas tout à fait accumulé le montant minimum pour la mise de fonds. Mais idéalement, on vise 20 %.
OK, excellent. Et avec le marché actuel, avec le niveau des taux actuels, est-ce que vous suggérez un taux variable ou un taux fixe selon vos connaissances et votre expertise?
Donc, deux réponses à ça. Si je fais mon achat, puis je calcule, puis tu sais, je suis un petit peu à côté sur ma capacité, là. Tu sais, j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre, là. définitivement qu'un taux fixe, ça va être préférable, sans égard à notre anticipation des taux, parce qu'on peut tous être dans le champ. On n'a aucune idée ce que les taux d'intérêt vont faire. Tu sais, c'est peut-être dans les 3-4 prochains mois, c'est plus facile à savoir, mais sur 3-4-5 ans, on n'a aucune idée. Si je n'ai pas de marge de manœuvre dans mon budget, 100% que je devrais favoriser un taux fixe. Si j'ai un peu de marge de manœuvre, puis là, que je veux peut-être essayer de faire des anticipations, ben je pense qu'aujourd'hui, si je compare un taux fixe 5 ans hypothécaire au taux variable, c'est à peu près la même affaire. La direction, probablement à la baisse au Canada. Donc, ça fait du sens d'aller vers un taux variable. Mais je répète, là, c'est une question de tolérance au risque. Si je n'ai pas de marge de manœuvre, puis là, d'aller demander à un acheteur qui a acheté en 2021 à côté sur ses capacités, comment il va trouver son taux de renouvellement quand son hypothèque passe de 1,8 à 4,2, il ne trouvera pas ça drôle.
Pis, donc, ça revient à souvent la réponse qu'on répond en planification. Ça dépend. Ça dépend de votre situation. Donc, ça, c'est le genre de... C'est pas le fun de dire ça, mais c'est une discussion qu'on peut avoir un à un avec chacun de nos clients, puis surtout avec toi, Mathieu, quand le temps va venir d'adresser ce point-là.
Oui, et finalement, dernière question, est-ce que vous avez des trucs, des astuces à donner pour optimiser l'utilisation des régimes enregistrés avant d'acheter ma première propriété?
Ben, puis un exercice qui peut être super intéressant à faire, c'est de déterminer le montant qu'on a besoin pour l'achat de propriété. Et puis de voir, bon, qu'est-ce qu'on a concrètement? On a combien en REER? On a combien en CELI? On a combien en CELIAP? On a combien en non enregistré? Puis de dire, OK, d'où je vais prendre l'argent. Mais si on veut maximiser nos régimes non enregistrés, il faut se rappeler que le CELIAP, c'est quelque chose qu'on commence quand on ouvre, on commence à contribuer, on peut contribuer 8 000 $ et on peut contribuer par année, exactement. La première année, 8 000 $. On peut rattraper 16 000 $ total par année. Donc, première année, 8 000 $. Après ça, si on contribue moins une année, ben on peut rattraper jusqu'à 16 000 $. Et on a 15 ans là, qu'on peut remplir notre CELI app, c'est-à-dire. Et on n'a pas, quand on est prêt à acheter la maison, on n'a pas besoin de le rembourser quand on retire. Donc, on retire l'argent du CELI app et on le retire sans impôt et on n'a pas besoin de le rembourser plus tard. C'est fini, le CELIAP est fermé. Pour le REER, si j'ai 60 000 ou au-dessus de 60 000 dans mon REER, je peux emprunter de mon REER et puis je peux emprunter jusqu'à concurrence de 60 000 $. Donc, si on est un couple qui achète une propriété, on peut tous les deux emprunter jusqu'à 60 000 $ de notre REER et on a 2 ans et après ça, on doit commencer à rembourser le montant qu'on a retiré de notre REER. Donc, dans le fond, c'est un emprunt à soi-même. Et c'est le montant qu'on doit rembourser, mais c'est 1/15 du montant qu'on a emprunté. C'est important de considérer qu'il y a ce remboursement-là. Donc, quand on fait tous nos calculs pour dire « est-ce que je devrais acheter une propriété », il faut considérer qu'éventuellement, il va falloir qu'on rembourse notre emprunt à notre REER. Donc, comment qu'on le rembourse? Bien, c'est vraiment sur le rapport d'impôt. Donc, on contribue à notre REER et on indique dans notre rapport d'impôt que tel montant, c'est pour le remboursement du RAP. Je sais aussi, Martin, que toi, tu as fait d'autres choses avec un client.
Donc, il y a certaines conditions fiscales au niveau des cotisations REER dans le cas du RAP ou du CELIAP. Donc, si je veux cotiser à mon REER puis ensuite retirer la cotisation pour faire un RAP, l'argent doit demeurer dans le REER un minimum de 90 jours. Sinon, ma déduction va être refusée. Donc, je ne peux pas dire, tu sais, j'emprunte 60 000 à mes parents, je le cotise au REER, je le retire tout de suite, je rembourse mes parents. Je n'aurai pas le retour d'impôt.
Non.
Cette règle-là n'existe pas pour le CELIAP. Donc, le CELIAP, c'est un nouveau programme. Qu'est-ce qui peut être fait? Bien, j'ai 40-50 000 à mon REER, je sors mon 50 000 pour le RAP. Je prends 8 000, je le cotise à mon CELIAP immédiatement. Le lendemain, je retire le 8 000. Puis là, j'ai toujours dans les mains le même 50 000 que j'ai retiré de mon REER. Je fais ma mise de fonds. Mais quand je vais faire mon rapport d'impôt à la fin de l'année, ben ce 8 000 de cotisation au CELIAP va me donner un retour d'impôt qui va probablement être bienvenu pour payer un paquet de frais de déménagement. Donc, c'est une façon d'un petit peu créer de l'argent. Là, même si j'ai pas de CELIAP et j'achète cette année, ben je peux aller me chercher un rapport d'impôt, un retour d'impôt supplémentaire en faisant cet exercice-là. Donc, les règles fiscales sont un petit peu différentes dans le cas du RAP et du CELIAP.
Puis, il faut dire que dans le cas du CELIAP, on peut contribuer maximum 40 000 $
au total durant la vie du CELIAP.
Exactement. Est-ce qu'on a bien répondu à certaines de tes questions?
Oui, et plus même.
Nous, on aime donner plus pour ton argent, Mathieu. Mais je pense que tu vas avoir plusieurs questions au fil du temps, puis on pourra refaire cet exercice-là. Donc, merci beaucoup pour l'effort que tu as mis. Merci à Michel aussi pour l'idée. Et merci à toi, Martin. Pour tous nos clients et partenaires, Martin, moi, Mathieu et Michel sont toujours disponibles pour discuter de vos besoins, de vos questions ou objectifs financiers personnels. Communiquez avec nous. Merci pour votre écoute cette semaine et à la semaine prochaine.